Signe des temps, Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. La presse de cette semaine s'en est beaucoup fait l'écho. Les frappes iraniennes sur Israël dans la nuit du 13 au 14 avril dernier indiquent un changement de stratégie militaire inédit depuis l'instauration de la République islamique en 79, et ce changement rend l'Iran plus imprévisible et opaque que jamais. Mais dans cette opacité, où en est la société civile face à ce durcissement géopolitique du régime? Où en est le mouvement Femmes, Vie, Liberté, né le 16 septembre 2022 après la mort de Mahsa Amini, la jeune étudiante kurde de 22 ans arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés, dans ce pays où près de 600 personnes ont été tuées depuis la naissance du mouvement, où la moyenne d'âge des 16 500 personnes détenues dans les prisons est de 19 ans, quel est l'impact de ces 18 mois de protestation sur la jeunesse, sur la génération Z iranienne en particulier? C'est ce qu'a tenté de savoir Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter indépendante et réalisatrice, dont le documentaire Afghan avait marqué les esprits en 2020. Et qui propose ce soir sur France 5 à 21h, Nous, jeunesse d'Iran, voyage interdit au sein de la génération Z iranienne. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, Solène Chalvon-Fioriti, bonjour.
Bonjour.
Je viens de le dire, vous êtes documentariste, réalisatrice, vous avez été correspondante en Afghanistan et au Pakistan. Vous étiez venue dans cette émission pour Afghan et aussi pour le livre La femme qui s'est réveillée, une histoire afghane, dans lequel vous parliez à la fois de la situation des femmes en Afghanistan et de votre propre parcours. Et donc, Nous, jeunesse d'Iran, voyage interdit au sein de la génération Z iranienne, est diffusé ce soir. Farid Vahid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès et spécialiste de l'Iran. Et Shirine Ardakani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate, présidente de l'association Iran Justice et également avocate du prix Nobel de la paix Narghez Mohammadi, qui est détenue à Erwin, dans la prison de d'Erwin à Téhéran depuis novembre 2021. Alors, ce documentaire, Nous, jeunesse d'Iran, voyage interdit au sein de la génération Z iranienne, jette un regard, tente de jeter un regard sur ce qui se passe dans la vie quotidienne, dans la société iranienne, comment la société iranienne est affectée par les manifestations et aussi par le durcissement du régime. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut dire un mot sur la des particularités de ce documentaire, puisqu'il a été il a fallu modifier les visages, les images floutées, les visages floutés ne suffisent plus aujourd'hui, parce qu'on la technologie permet en fait d'identifier les personnes qui sont interviewées si on se contente de flouter les images. Donc, ce que vous avez fait, Solène Chalvon-Fioriti, c'est que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour interviewer les personnages de votre film.
Oui, parce que, comme vous venez de le dire, en fait, les flous, malheureusement, maintenant, ne sont plus suffisants, à moins qu'ils soient très épais. Et dans ce cas-là, on perd toute trace d'humanité de la personne qui nous parle. Donc, en fait, j'ai été inspirée par un formidable documentaire diffusé en 2020, qui a d'ailleurs raflé tous les prix possibles imaginaux, qui s'appelait Welcome to Chechnya, et qui est un film qui raconte l'exfiltration de militants LGBT depuis la Tchétchénie, qui sont aidés par des Russes, et on les voit comme ça, avec des visages, comme dans notre film d'ailleurs, des visages qui sautent, qui n'ont pas l'air normaux, qui n'ont pas l'air vrais, et qui agissent comme des espèces de masques mouvants pour anonymiser les témoins. Et donc j'ai vraiment cherché à faire la même chose. En France, ça n'avait pas encore été utilisé. On utilise un petit peu d'IA, par exemple, pour créer des décors qu'on ne peut pas reproduire dans des documentaires, mais jamais pour les visages. Donc, on a cherché quelqu'un en capacité de savoir le faire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très compliqué parce que cette personne-là, elle n'existe jamais dans une chaîne de production. C'est quelqu'un qui n'est pas journaliste, qui ne veut pas être connu, parce que vous pensez bien que si la Chine, la Russie, l'Iran commencent à connaître les quelques rares petites mains qui savent produire des visages à l'intérieur intelligence artificielle, ils se feront hacker. Donc il a fallu trouver cette personne source. Et ensuite, eh ben, ensemble, on a, par des moyens extrêmement sécurisés, on a échangé des images. Et finalement, un mois avant la sortie du film, il nous a proposé une galerie de visages. Et ce sont toutes les femmes du film, les témoins, qui les ont choisies elles-mêmes.
Oui, et donc leurs visages qu'on voit ne sont pas les leurs.
Les visages
pas seulement, enfin l'ingénieur qu'on voit aussi, l'ingénieur VPN, c'est pas le sien.
Tout à fait.
C'est très particulier. La technologie est partout présente dans le film, dans les avatars, dans dans, on voit à un moment donné l'enfant d'une pro-régime qui lit le Coran avec une espèce de stylo. Qui lui donne une version orale du Coran comme s'il parlait, comme si c'était un prêche.
Ouais, tout à fait, un stylet connecté, ouais.
Il joue aussi à des jeux vidéo qui sont conçus par le régime pour raconter le roman national. Donc on voit les gardiens de la révolution en train de se battre contre Daesh, et on voit les enfants qui meurent en martyrs. Donc la technologie est constamment présente. Il y a aussi une influenceuse qui s'est fait refaire les lèvres. Mmh. La notion de clandestinité et c'est un documentaire qui n'aurait pas pu être fait il y a 10 ans. C'est un documentaire vraiment d'aujourd'hui où l'idée même de savoir exactement ce qu'on filme et quand on le filme est remise en cause constamment. En fait.
Oui, et puis surtout, alors vous avez raison, c'est-à-dire que c'est un documentaire qui n'aurait pas pu être fait il y a 10 ans parce que cette technique n'existait pas encore. Oui. Mais aussi, en fait, n'aurait pas pu être fait parce que cette jeunesse nous dépasse en tout point en termes de connaissances technologiques. On voit dans le film Anaïta, 29 ans, femme pro-régime, qui nous raconte quand même que cet été, elle espère pouvoir inscrire son fils dans un stage d'informatique avec une spécialisation intelligence artificielle. C'est-à-dire que non seulement le monde a changé, hein, non seulement la jeunesse d'aujourd'hui, la génération Z, maîtrise bien mieux que nous quatre les outils connectés, mais en plus l'Iran peut s'enorgueillir d'une très grande connaissance en matière de technologie. Moi j'ai vraiment fait un parallèle toute cette dernière année parce que j'ai plein de neveux et nièces qui ont 20 ans, et je vous assure que les Iraniens que j'avais au téléphone, pro ou anti-régime, dépassaient en tout point les connaissances de mes neveux et nièces à Paris.
Oui, on les voit aussi jouer avec les VPN constamment pour déjouer la censure du régime. Il y a également des terminaux Starlink dont on dit qu'ils arriveraient aux frontières, ce qui est étonnant. Enfin, on ne sait pas comment ils arrivent, on ne sait pas si c'est...
C'est évidemment pas raconté, parce que ces terminaux-là arrivent clandestinement. Alors, là encore, je crois que ça fait partie des choses, malheureusement, qui ont créé beaucoup d'espoir. Vous savez, ces terminaux, imaginer, ils sont reliés à des satellites. En fait, c'est l'Internet satellitaire Starlink, dont on avait proposé au départ, dont Elon Musk avait proposé au départ, qu'il soit gratuit. D'ailleurs, en Iran, ils étaient gratuits quand il s'agissait de défendre la démocratie. En réalité, ils n'ont en fait pas très bien marché, et ils n'ont pas été importés en nombre, mais en fait les Iraniens d'une certaine manière n'en avaient pas besoin, puisqu'il y a une telle culture du VPN, du renouvellement du VPN et de la création des applications, que les Iraniens en fait n'ont aucun mal, il faut être très patient, mais ils ont toujours moyen de communiquer avec le monde extérieur.
C'est ce mélange d'idéologie du Moyen-Âge et d'ultra-technologie qui est très troublant quand on regarde le documentaire. Farid Vahid.
Oui, idéologie islamiste du Moyen-Âge, on peut dire ça, mais ils ont eu une sacralité pour la science, oui. Pour les technologies. Vous savez, ils ont toujours pris vraiment au sérieux les études techniques d'ingénierie, donc l'université de Sharif, l'université de Téhéran, l'université Amir Kabir, c'est des universités qui produisent des très grands ingénieurs, filles ou garçons d'ailleurs. Moi, dans ma promo, la majeure de promo, c'était une fille. Donc, la plupart partent aux États-Unis, mais il y en a toujours quelques-uns qui retournent pour diverses raisons. Et c'est eux qui font finalement vivre le régime, qui font vivre l'avancée, on va dire, technologique du régime. Et pour revenir sur les VPN, moi, je trouve ça fascinant. Vous savez, les VPN, maintenant, la plupart en Iran, sont vendus par les gardiens de la révolution eux-mêmes. Donc, il y a tout un business en plus autour... Oui. Des VPN, donc c'est interdit, mais ils savent que les gens vont trouver une solution pour avoir accès à Internet. Donc ici, c'est bon, tant qu'à gagner un peu d'argent avec cette histoire. Le kit de la révolution, comme vous dites, avec sa pensée moyenâgeuse, il a quand même plusieurs comptes Twitter.
Alors que Twitter est interdit.
Et tweet en hébreu. Alors après l'attaque de la semaine dernière sur Jérusalem, il tweet en hébreu, Jérusalem sera musulmane. Donc, ils ont quand même complètement pris conscience de l'importance des réseaux sociaux. D'ailleurs, sur la guerre informationnelle, je pense qu'on a un peu pris de retard en France et en Europe. Mais les Iraniens et les Russes sont quand même très actifs sur la désinformation en ligne, sur les narratifs qui poussent aussi pour créer, on va dire, une paranoïa et une guerre psychologique à l'égard des Iraniens de l'étranger. Mmh. Donc oui, c'est un régime qui prend très au sérieux la technologie.
Tout le monde le prend au sérieux, visiblement. Le régime,
les anti-régimes, et les anti-régimes. Tout le monde.
Ouais, Chérine Ardakani, sur cette question.
Oui, non, tout à fait. Moi, je vais dans le sens de Farid Vahid. J'ai quand même une difficulté avec le fait de présenter les mollahs et les gardiens de la révolution comme moyenâgeux. Évidemment que l'idéologie qu'ils portent et la théocratie, en soi, c'est une idée qui est tout à fait contestable, mais je ne suis pas certaine qu'ils ne soient pas eux-mêmes dans une forme de subtilité d'une certaine façon. C'est un régime qui est plus ambivalent qu'on ne le croit, et je pense que ce serait sous-estimer la portée de leur régime que de les décrire finalement au fond comme des mollahs enturbanés d'un autre âge. Je crois que au contraire, ils ont cette capacité en permanence à comprendre le gain qu'ils peuvent tirer des nouvelles technologies. D'ailleurs, Farid Vahid parlait du cyberharcèlement. On sait qu'il y a une cyberarmée du régime qui d'ailleurs utilise les réseaux sociaux pour continuer de cibler les dissidents à l'étranger. D'ailleurs, on a même des comptes qui sont identifiés comme étant des faux comptes de harceleurs qui ont même infiltré, on le sait, la diaspora à l'étranger parfois pour créer des oppositions entre les opposants eux-mêmes, puisque ça génère évidemment des commentaires haineux, et on a le sentiment finalement que les Iraniens sont éclatés, divisés, etc. Alors que parfois ce sont des dissensions qui sont créées par la cyberarmée du régime. Donc je crois qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer cela. On rappelle aussi qu'il y a une portée nationaliste très forte parmi, y compris le régime, les partisans du régime iranien, qui se glorifient aussi de tout l'héritage de ces grands scientifiques, de ces grands penseurs iraniens. D'ailleurs, pas tous toujours irano-perse. Parfois, c'était des grands penseurs qui étaient issus d'autres ethnies. Mais néanmoins, il y a quand même ce narratif national autour de les grands scientifiques penseurs musulmans de l'islam iranien. Voilà.
Et pour continuer juste une seconde sur la technologie, l'offensive du 13 avril, qui s'appelait Promesse honnête chez les Iraniens, a été conduite par la branche aérospatiale des Pasdaran, des carnets de la Révolution. Donc la branche la plus technologiquement aware.
Nuancer ces quatre dernières décennies, ils ont complètement, on va dire, saboté les sciences humaines en Iran, en instaurant une idéologie de sciences humaines islamiques. Et même en Iran, maintenant, c'est très mal vu de faire, par exemple, des études de philosophie, de littérature. C'est pas du tout valorisé. Mais en revanche, sur les sciences exactes, les facultés d'ingénieurs, ils ont beaucoup investi. Encore une fois, cette force dont vous parlez. Vous savez, moi, à l'université Téhéran, c'était assez étonnant. Tous nos profs avaient étudié, avaient fait leur doctorat au MIT, UCLA, à Stanford. Ils sont revenus après en Iran. Donc, comme dit Chérine, c'est quand même des gens très... Voilà, ils sont très scientifiques, ils connaissent ce qu'ils font. Et cette branche aérospatiale des gardiens de la Révolution, donc c'est des gens, des basiques, pour diverses raisons, idéologiques ou autres, qui ont fait des études très pointues aux États-Unis ou ailleurs, et qui sont retournés en Iran pour contribuer à la République islamique et aux forces militaires.
Quand je parlais de Moyen-Âge, une des contradictions qu'on voit dans le film, Solène Chalbon-Fioriti, c'est cette différence entre justement cette conscience technologique de tout le monde et la propagande qu'on voit au sujet de Gaza, par exemple, où on est encore dans l'idéologie de l'héroïsme et du martyr, il y a une sorte de disjonction là, cognitive entre les deux, il me semble.
Oui, et alors, une disjonction, et si vous voulez, c'est pas une schizophrénie, c'est-à-dire que là encore une fois, je pense qu'on, en tout cas moi personnellement, il y a un an et demi, j'avais pas bien compris cette société, j'avais pas bien compris l'Iran parce que je pensais justement là j'aurais dit schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils sont capables de ça et en même temps d'être ultra tech. Non, en fait c'est un écart, il y a un écart abyssal et qui fait d'ailleurs que travailler sur l'Iran, c'est proprement pour moi par exemple, ça a été désolant au sens strict, j'étais vraiment authentiquement désolé. Parce que quand vous travaillez par exemple sur l'Afghanistan, c'est très dur, mais vous êtes obligé quand même de réaliser que les talibans représentent une certaine partie des Afghans, que les talibans vont être en capacité, malheureusement peut-être dans 20 ans, d'écraser complètement une génération de femmes éduquées. L'Iran, ça n'a rien à voir. Je veux dire, l'Iran, quand vous parlez avec des jeunes de 22 ans, ils ne partagent rien avec leurs dirigeants. C'est un écart. Moi, j'ai toujours travaillé sur le conflit. Je ne l'ai jamais vu. Et sur les dictatures, j'ai grandi en Égypte, dans des dictatures militaires, ensuite au Pakistan. Je n'ai jamais vu cet écart-là. C'est-à-dire que quelqu'un comme Sarah, qui est la narratrice principale du film, qui a, attention, hein, il faut pas non plus trop projeter nos propres désirs et nos propres héroïsmes sur les Iraniens, qui est quand même religieuse, qui m'a souvent parlé de Dieu en un an et demi, qui est patriote, qui s'inquiète quand même parce qu'elle croit à la fin de la République islamique, mais elle se dit mais qu'est-ce qui nous arrivera après? Est-ce qu'on sera pas dévoré? Mais toujours est-il, elle a du respect d'ailleurs pour les martyrs qui constellent les murs de Téhéran, mais elle ne comprend rien en fait au vocable des dirigeants. Elle le moque et en fait à chaque fois qu'on recevait des vidéos ou des témoignages, les jeunes de l'âge de Sarah qui sont comme le disaient les intervenants tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils sont tellement quali, je veux dire, ils sont tellement éduqués par la fac, évidemment qu'ils se moquent d'entendre le régime toute la journée leur expliquer d'aller mourir en martyr pour Gaza, quand eux, en fait, ce qu'ils voudraient, c'est manger de la viande une fois par semaine, pouvoir payer le taxi pour aller à la fac et ne pas cumuler trois jobs en même temps que leur master. Donc cet écart-là, plus le régime cherche à le combler, avec quand même des manifestations grotesques, et puis surtout cette culture de la tristesse qui est tellement dénoncée dans le film, qui est tellement à rebours en fait de cette joie de vivre qu'a tellement envie de porter la jeunesse iranienne, ben plus il, en fait, en réalité, plus il creuse ce décalage auprès de cette classe moyenne qui n'est plus dupe de rien. C'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement dupe du fait que le martyr, c'est une figure totémique. Elle est aussi pas dupe du fait que les Iraniens financent le Hamas alors que eux n'arrivent pas à manger convenablement. Donc c'est tout cet écart qu'on a vraiment essayé de mettre en lumière dans le film.
Oui, ce qui apparaît, c'est que effectivement, on voit ces manifestations officielles où il s'agit d'aller mourir pour Gaza, pour la Palestine, et on voit une des femmes en noir qui dit la jeunesse devrait être là beaucoup plus présente, beaucoup plus nombreuse. Il le serait si les jeunes n'étaient pas aussi influencés par l'Occident. Mais elle se trompe quand on regarde vos personnages, enfin les gens qui interviennent dans votre, qu'il s'agisse de Sarah ou qu'il s'agisse de Hawa ou de Anaïta qui est pro-régime, on se rend compte que ils sont pas tant que ça influencés par l'Occident. C'est beaucoup plus complexe ce qu'on voit. Effectivement, vous venez de le dire, Sarah, elle respecte, ou elle a respecté très longtemps, en tout cas, les valeurs iraniennes, y compris les martyrs.
Tout à fait.
La guerre avec l'Irak a été très importante. Enfin, on va peut-être en dire deux mots tout à l'heure. Mais ça reste structurant pour beaucoup, y compris pour beaucoup d'opposants du régime.
Tout à fait. Et puis, ce que j'avais entendu, notamment avec vos deux intervenants aujourd'hui, qui ont été très présents pendant Femmes, Vie, Liberté, alors que moi, j'avais pas encore complètement commencé le film. C'est-à-dire que cette jeunesse ce qu'il y a aussi de très intéressant en elle, c'est justement ça, c'est-à-dire qu'elle partage les codes culturels d'une jeunesse globalisée, mais qui n'est pas du tout qu'une jeunesse occidentale et blanche, si je puis dire, vous voyez. C'est-à-dire que la question écologique, le rapport au libre choix, qu'on soit woke ou pas, hein, je parle même pas de mouvement de jeunesse particulier, je veux juste dire que... pas auprès de toutes les femmes religieuses, par exemple, du film, j'entendais, et d'ailleurs la jeune femme de la manifestation que vous citiez tout à l'heure, on l'a pas gardée au montage, mais elle disait aussi, on devrait être libre de son choix, libre de son choix de porter le voile, par exemple, qui est vraiment quelque chose qui revenait beaucoup auprès de la jeunesse religieuse. Et donc cette jeunesse-là, que encore une fois, nous on adorait, parce que elle est très qualifiée, ces Iraniennes sont tellement belles, ils sont tellement courageux, tellement prolifiques au niveau culturel, cinématographique. On a tous vu ces images artistiques extraordinaires. On peut aussi avoir tendance à plaquer, nos propres désirs. Et attention, c'est pour ça aussi d'ailleurs que ce film m'a beaucoup intéressée. Attention, la dichotomie n'est pas simplement entre les modernes et les tradis. D'ailleurs, elle l'est assez peu. Et ensuite, les Iraniens et les Iraniennes ne sont pas forcément anti-voile. Hein. Ils sont pour beaucoup anti-voile obligatoire, anti-voile, pro-israélien, etc., etc. En vérité, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, qui relie tous les jeunes de ce film, c'est patriote. j'ai trouvé qu'ils étaient très patriotes. Alors, nos intervenants nous en parleraient mieux, mais je pense pas que j'aurais entendu jamais en France des jeunes Français parler comme ça de leur pays.
C'est ce que je voulais dire, c'est effectivement la jeunesse iranienne aujourd'hui a envie de vivre une vie joyeuse. On a grandi dans ce culte de la tristesse. À l'école, voilà, tous les jours, il y a les prières pour l'imam Hussein. Donc c'est, on pleure beaucoup sur la République islamique, tandis que les Iraniens, c'est plutôt une culture de joie. Ça a toujours été historiquement, on regarde même sous les Safavides, dans les palais, il y a du vin, il y a de la danse. Donc c'est une société qui veut vivre de manière joyeuse. En revanche, je suis tout à fait d'accord avec Solène. Il faut faire attention, c'est une jeunesse qui a aussi sa propre identité, l'identité iranienne. Le martyr, c'est quelque chose qui date pas de la République islamique. Oui. Ça commence avec Ferdowsi, avec les héros iraniens. Ça commence et ça continue au travers des siècles. Le martyr pour les Iraniens, c'est le sacrifice pour le pays. Donc, faut faire ici la différence entre les martyrs qui sont morts pour l'Iran, qui sont respectés par tout le monde et qui le seront toujours, et les martyrs que la République islamique essaye de nous imposer, qui sont morts pour les intérêts du régime en Syrie ou ailleurs. Donc les Iraniens ne sont pas dupes. Ceux-là, pour les Iraniens, ne sont pas des martyrs. Ils sont morts pour les intérêts du régime. En revanche, les Iraniens sont extrêmement patriotes. Attention, quand on voit des titres comme « Israël a attaqué Ispahan », moi je vous assure, ça ne fait pas plaisir aux Iraniens. ça les agace. Ils ne sont pas contents. Donc on peut être anti-régime, tout en étant très sensible à notre intégrité territoriale.
Et parce qu'on a vu sur Internet, on a vu sur Twitter notamment des photos circuler avec des tags sur les murs à Téhéran disant Hit them, ouais, Israel.
On avait vu des étoiles de David à Paris.
Oui, voilà.
Vous savez, l'Iran, c'est 90 millions d'habitants, donc on peut trouver de tout dedans. Et si les Iraniens étaient vraiment pour les frappes israéliennes et sur l'Iran, il y aurait plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues.
Oui. Chirine Ardekani.
Non, mais un mot pour rebondir à ce que disaient à la fois Farid Veid et Solène Chalvon-Fioriti, pardon, c'est que je crois que cette identité iranienne, y compris auprès de la jeunesse, c'est pas de refuser absolument la martyrologie, mais c'est de substituer les nouveaux martyrs, c'est-à-dire les jeunes qui sont tombés pendant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. La première des icônes et des nouveaux martyrs, c'est Jina Mahsa Amini. C'est par là, finalement, que il y a cette opération de substitution en se disant, voilà, ça, ce sont nos martyrs. Ce sont les jeunes qui sont tombés, qui ont été pendus, qui ont payé le plus lourd tribut après septembre 2022. On se souvient, tous les jeunes exécutés, Mohamed Mehdi Karami, ce jeune karatéka qui avait à peine 20 ans, c'était finalement dans les exécutés manifestants post-Jina Mahsa Amini, c'était essentiellement des jeunes. Et donc je pense que les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils disent, c'est nous, on n'oubliera jamais ces morts-là. Et ce sont nos martyrs. Ça, c'est la première chose. Sur la deuxième chose, oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le respect du territoire iranien, ça, c'est une ligne rouge pour la plupart des Iraniens. D'ailleurs, dans une tribune qui a été publiée la semaine dernière, au péril de la vie de plus de 500 intellectuels, et c'était pas que des militants, hein, c'était aussi des écrivains, des gens de la société civile, ils ont bien dit, attention, nous, l'environnement belliqueux, pour nous, c'est un moyen d'asphyxier les mouvements pro-démocrates, et par ailleurs, attention, pour nous, une ligne rouge, c'est l'intégrité du territoire iranien. Nous ne sommes pas favorables à des frappes, parce que on n'est pas dupes, les bombes, elles tombent pas que sur les mollahs et les gardiens de la révolution, même si la technologie est poussée, il y aura quand même des victimes collatérales. Et les victimes collatérales, c'est nous. Donc on n'est quand même pas complètement fous. Alors évidemment qu'il y a parfois, ici et là, mais souvent à l'étranger, d'ailleurs c'est souvent la diaspora à l'étranger qui glorifie quelques, il y a peut-être quelques énergumènes. Alors je saurais pas les quantifier, parce que justement on ne sait pas combien ils représentent à l'intérieur du pays, qui seraient favorables peut-être à des frappes chirurgicales sur des installations. Mais attention à ne pas voir ces éléments-là isolés comme étant le peuple iranien unanime. J'ai vu des hashtags, par exemple « Iranian stand with Israel ». Écoutez, moi, je suis quand même assez dubitative. Honnêtement, je suis assez dubitative. Je pense qu'il faut faire attention aussi, comme disait Solène Chalvon, à ne pas projeter, nous, nos propres grilles de lecture sur une société iranienne, finalement, qui n'est ni pro-israélienne, ni pro-Gaza en réalité, et dont le seul objectif aujourd'hui, c'est d'en terminer avec l'islam politique d'une part, de se recentrer sur une vie digne. Les Iraniens aujourd'hui, ce qu'ils veulent, eh ben, c'est de pouvoir avoir des perspectives économiques dans une société où il y a de la corruption, une hyperinflation. Voilà, je crois que c'est ça aujourd'hui le souhait des Iraniens. C'est la préoccupation au jour le jour, en fait. C'est la préoccupation au jour le jour.
Solène, c'est ce qu'on voit vraiment dans le film. Sarah, en particulier, a tout un discours sur la corruption. Elle est obligée de faire deux boulots après la fac. Elle dit que c'est très dur, qu'elle ne peut rien acheter parce qu'elle ne connaît pas de gens haut placés, que toute la société, en fait, fonctionne sur un système de protection et de corruption organisé, visiblement, par les gardiens de la Révolution qui ont littéralement pris le pouvoir sur les mollahs aujourd'hui et contrôlent près de 60% de l'économie. C'est ce qui joue un rôle, je pense, dans la désaffection de la société civile vis-à-vis du régime. Mais ce qui est intéressant dans votre film, c'est la multiplicité des discours. Il y a le discours de Sarah qui est vraiment la petite bourgeoise étudiante qui voudrait consommer. Il y a Hawa qui a 23 ans, qui est kurde, qui est probablement la plus impressionnante, qui est dans un camp d'entraînement pour femmes dans le Kurdistan où elle assure la formation des nouvelles recrues. Et elle dit moi si je veux, j'embarque toute une ville avec moi. Elle a visiblement peur de rien. Et elle dit les Iraniens se battent pour faire la fête ce soir et enlever le hijab, mais moi non.
Oui, alors c'est intéressant parce que c'était aussi l'objectif du film, c'était de montrer, parce que le problème quand on travaille sur des pays qui sont fermés, c'est qu'on a quand même accès, on a tous accès aux mêmes images. Ouais. Et là, toutes les mêmes images, c'était des images sans contre-champ, donc à la fois des images où on voit pas les religieux, et les images où on voit pas, d'ailleurs, et eux, je n'ai pas réussi à les avoir, et c'est vraiment sur eux que j'aurais aimé aussi beaucoup travailler, ce sont ceux qu'elle appelle les mecs en costard, hein, qui sont, comme vous venez de le dire, qui sont en fait des fils à papa, des gardiens de la Révolution, ou en proximité directe avec eux, et qui sont ceux qu'elle voit à la fac, enfin, on en a parlé très longuement en fait, qu'elle voit à la fac ou autour d'elle, et qui auront accès à des bien meilleurs postes, et à des bien meilleures vies, et à des voyages, et ceux-là ne portent pas des barbes blanches, ne sont pas enturbanés, lèvent le coude dans des soirées clandestines, et se fichent éperdument de Femmes, Vie, Liberté. Donc, c'est ça aussi qui était intéressant, c'est-à-dire que c'est cette jeunesse iranienne dans sa pluralité, ce qui me permet quand même de la lier, et c'est le mantra du film qui revient. Il y a quelque chose qui les lie tous, je vous ai dit que j'ai ressenti, c'est une vraie forme de patriotisme, mais quand même évidemment des désirs différents. Le désir de vivre, comme le disait Madame Marakami, excusez-moi,
Ardakadi,
je suis désolée, désir de vivre dignement du point de vue économique, surtout, d'abord, avec des jeunes qui, moi, m'ont quand même dit je pense que si la situation économique n'avait pas été si difficile, je pense pas que je serais allée dans les manifestations de Femmes, Vie, Liberté. Faut aussi quand même entendre ça. Et d'autres visages inattendus, qui ne représentent pas nécessairement des millions de gens, mais qui sont des visages comme cette jeune combattante, parce que, là encore, c'est à 20 ans qu'on est radical, c'est à 20 ans qu'on peut avoir envie de prendre le maquis. Et dans son cas, elle a grandi dans une famille très très militante, qui est historiquement une famille d'ailleurs qui s'est toujours battue, et qui est une famille, il faut bien comprendre, même au sein de la communauté kurde. Vous avez énormément de Kurdes en Iran qui sont extrêmement opposés à la lutte armée, qui regardent d'un très mauvais œil ces camps qui, de leur point de vue, divisent la société iranienne, et puis en plus qui donnent du grain à moudre bien sûr au régime de Téhéran, qui va dire bah oui d'accord, vous voulez c'est ça, vous voulez avoir plus de droits, bah regardez ce que ça donne, les jeunes prennent les armes et peuvent se retourner contre nous lors d'insurrections. Donc ça, Hawa, je voulais vraiment la voir parce que c'est un discours qui est très différent, et en plus vous avez vu à quel point elle symbolise, ne serait-ce que par son être propre.
Il y a un côté, c'est la vraie révolutionnaire.
Tout à fait, la vraie révolutionnaire, extrêmement radicale. Mais en fait, des femmes comme Hawa sont des femmes qui sont extrêmement décriées dans les grandes villes iraniennes.
Oui, oui. Et l'autre personnage qui est un grand point d'interrogation pour moi dans le film, c'est Anahita, qui est divorcée, mère d'un enfant de 9 ans. C'est celui qui joue avec son stylo, qui lui récite le Coran, et qui se dit 100% favorable à la République islamique. Sans pouvoir dire si c'est son choix ou si c'est un truc d'atmosphère ou dans l'enfance ou d'éducation, mais qui est cadre dans un ministère dont l'oncle est mort en martyr en Irak. Elle dit qu'elle a eu aucune réflexion sur son divorce dans son travail. Il a eu des problèmes dans sa famille, mais pas dans le travail. L'important distance et comporte correctement le tchador, dit-elle. Et bien qu'elle soutienne complètement la République islamique, elle a accepté de vous parler. C'est une de celles qui est la première à proposer d'avoir un avatar. Donc elle a accepté de répondre à un entretien clandestin.
Tout à fait.
Pour l'Occident.
Tout à fait.
Tout en soutenant complètement le régime.
Oui, mais en fait, ça rejoint ce qui vient d'être dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens ne sont pas dupes. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ont un tel niveau de connaissance, non seulement académique, mais juste connaissance du monde, et la connaissance du monde, c'est pas simplement Internet, hein, c'est aussi les séries, les journaux, et toute cette diaspora extraordinaire, alors qui revient moins maintenant, mais qui quand même, pour la majorité, fait des allers-retours très réguliers avec l'Iran, et donc les gens voient bien, en voyant arriver les gens de l'Occident, en voyant arriver leur père, leur cousin, leurs amis, qu'en fait c'est pas le diable et qu'en fait on peut tout à fait réussir sa vie sans avoir cédé au grand diable occidental ailleurs que dans le pays. Donc elle est parfaitement consciente de ça, et c'est pour ça bien sûr qu'on l'a choisie. C'est parce qu'elle est à la fois, elle est très ambiguë dans ce qu'elle raconte, elle est idéologiquement, elle épouse la République islamique parce qu'elle craint, c'est aussi ce qui était dit tout à l'heure par Farid Vaid, c'est-à-dire qu'elle craint un effondrement, elle craint que des puissances régionales tellement fortes dans cette région grignotent son pays en cas d'échec du régime, mais en même temps elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligente que la propagande qu'on lui sert toute la journée. Je pense que pour elle, la République islamique reste un moindre mal, et puis elle est aussi fonctionnaire, donc en fait, elle a une position qui est plutôt confortable.
Oui,
il y a des millions de fonctionnaires en Iran, donc qui travaillent dans les ministères, et vous savez, ça a longtemps été un débat. Moi, je pense aujourd'hui, ça a été un peu tranché quand même depuis Femmes, Vie, Liberté, sur est-ce que le régime est réformable ou non. Est-ce qu'on sait ce qu'on veut après, en gardant le mauvais souvenir de 79. 79, les gens savaient qu'ils ne voulaient pas du régime du Shah. En revanche, ils ne savaient pas précisément ce qu'ils voulaient. Et le résultat était quand même pire que le régime du Shah. Donc aujourd'hui, on a aussi ce débat-là. Donc, c'est sûr, les Iraniens veulent une démocratie séculaire. Ils savent qu'ils veulent la séparation de la religion et de la politique. Ça, c'est,
oui,
ça fait l'unanimité.
De jeunes, les deux tiers des jeunes, politique. Je crois, veulent la séparation de
l'Église. Plus des deux tiers.
En revanche, et c'est là où je pense qu'on doit faire attention aussi en Occident sur nos gouverneurs, sur leur discours ou sur leur stratégie régionale. Il n'y a rien de pire pour la société iranienne. Et c'est finalement le meilleur cadeau à faire à la République islamique d'Iran de menacer militairement ce pays. Parce que vous savez, les Iraniens, ils ont grandi en fait avec cette peur d'effondrement. C'est l'histoire de l'Iran. On regarde l'histoire de l'Iran. Le pays a été envahi plusieurs fois par Alexandre, par les Arabes, par les Mongols. Pendant plusieurs siècles, l'Iran n'avait pas d'état central. Donc le pays disparaît, se remet, disparaît comme un phénix, ça renaît. Et les Iraniens gardent un très mauvais souvenir de tout ça. D'ailleurs, l'Iran actuel, c'est le plus petit Iran de l'histoire du pays. Donc les Iraniens sont quand même très sensibles à la terre. C'est quelque chose de sacré, la terre, dans le pays. Et le régime arrive très bien à jouer sur ça, notamment comme a dit Solène, à dire « Regardez, faites attention aux Kurdes ». Tandis que la plupart des Kurdes sont très iranophiles. Ils sont iraniens. De toute façon, dans le mot « Iran », il n'y a pas d'ethnie. « Iran », ça veut dire la terre des hommes et des femmes libres. À Téhéran, la majorité des gens ne sont pas perses. Il y a de tout. Il y a des azéris, des Kurdes. Le guide de la révolution, il n'est pas perse. L'Ayatollah Khamenei, il est azéri. Donc voilà, c'est un pays où les gens partagent un destin commun. Mais la République islamique est très vicieuse, donc essaye de diviser les gens. Et c'est là où il faut faire attention à ne pas leur donner les arguments pour réussir à le faire.
Mais justement, enfin, ce qui me frappe dans le documentaire, c'est la multiplicité des points de vue. Il y a une des personnes interviewées, je crois que c'est Aïda à Paris, dit que la défense des minorités ethniques, ça fait écho à la jeunesse nouvelle et qu'elle met un peu toute cette jeunesse dans le même panier, en quelque sorte. Mais ce qui me frappe, c'est plutôt le contraire. Moi, c'est qu'il y a une multiplicité de points de vue et d'orientations. Et la question se pose de savoir quand même, oui, si et quand le régime s'effondre, qu'est-ce qui se passe après?
Je pense dans un Iran libre,
Farid Vaid,
il y aura un parlement fascinant avec des gens qui auront des opinions très différentes, et finalement c'est ce qu'on veut. Et les Iraniens, je pense aujourd'hui, ils veulent qu'il y ait un parti séparatiste kurde qui participe aux élections. C'est une société complète comme la société française. Ici, vous avez les zemmouristes et les wokistes. En Iran, ça va être... On ne dit pas que tous les Iraniens pensent la même chose. En revanche, je trouve aujourd'hui, il y a vraiment une volonté de respecter les minorités, notamment les minorités religieuses. Les Baroïs se font massacrer en Iran, où les chrétiens ils ont une vie difficile. Les juifs d'Iran, qui étaient très nombreux après, avant la révolution, sont tous partis, la plupart, il en reste quelques milliers. Donc aujourd'hui, il y a vraiment ce souhait de la société civile iranienne, de la jeunesse, de respecter les minorités. Il n'y a pas un discours fasciste, j'allais dire, de centralisation, un discours jacobin. Au contraire, il y a un discours d'égalité des droits.
Et de multiplicité.
Oui, tout à fait.
Shahin Ardakani.
Oui, simplement, vous vous interrogiez sur un potentiel Iran libre. Moi, je crois qu'il est à l'image de l'université d'Evin. L'université d'Evin, c'est la prison politique d'Evin où sont détenus, en fait, tous les écrivains, les intellectuels, les militants politiques de toutes les obédiences, d'ailleurs. Ça va de la droite nationaliste à des royalistes, en passant par des moudjahidines du peuple d'extrême gauche et des militants de la société civile, des féministes et des écologistes. Bon, en réalité, quand vous regardez le rapport de force dans les prisons politiques, bah, vous avez, grosso modo, un parlement. C'est-à-dire que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, des écrivains censurés pour avoir écrit sur la lapidation. Vous avez le prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi, qui représente tout le mouvement abolitionniste contre la peine de mort. Vous avez une minorité, certes, mais quand même, de royalistes. Donc vous voyez bien qu'au fond, il y a, je pense, toutes les aspirations politiques qu'il pourrait y avoir. Le problème, c'est qu'elles sont réprimées et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'expression politique possible. Mais en réalité, je crois que, de toute façon, l'alternative politique vient nécessairement de l'intérieur du pays. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce que ces mouvements qui sont structurés, mais de façon clandestine, peuvent échapper au mur de la répression, parce que à chaque fois qu'il y a des mouvements, le problème, c'est qu'il y a des arrestations massives, il y a des exécutions politiques, et que ça vient mettre de nouveau un coup au mouvement pro-démocrate. Et c'est ça la question aujourd'hui. Je ne crois pas personnellement à cette idée qu'il y aurait une opposition possible de l'étranger qui pourrait un jour voir le jour à l'extérieur du pays, aidé par des puissances étrangères, sans quoi je crois malheureusement que ce serait le scénario de cet Iran finalement toujours sous le joug des grands empires occidentaux qui se rejoueraient. Et je crois que c'est pas aujourd'hui le sentiment de la plupart des Iraniens, et en tout cas de ces jeunes-là qu'on a vu d'ailleurs dans ce documentaire. Au fond, et pour le dire très rapidement, je crois qu'aujourd'hui, entre la jeunesse pieuse iranienne et la jeunesse femme vie liberté, il y a vraiment le souci de se dégager de toute cette génération de gérontocrates qui les gouverne. Je crois qu'il y a un gap aussi générationnel, et je crois que parmi tous ces gens, il y a une insolence révolutionnaire. C'est l'insolence de la jeunesse qui, à un moment, refuse la société qu'on leur propose.
Alors, depuis les frappes iraniennes du 14 avril, apparemment la répression s'est accrue en Iran.
Bien sûr.
Pourquoi ?
Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est parfaitement concomitant, et que c'est évidemment une très mauvaise nouvelle, puisque c'est fait pour que ce soit su, bien sûr. Hein, sinon, on aurait eu des images ces derniers mois, cette dernière année de répression de la sorte. D'autres jeunes femmes ont disparu dans des circonstances très troubles cette dernière année. On n'a aucune image, aucune vidéo pour l'attester. Là, c'est une opération qui est menée de façon conjointe. Maintenant, c'est intéressant que vous, enfin, je souhaite revenir dessus et faire un lien avec ce qui vient d'être dit, parce que c'est moi ce qui m'a motivée à faire ce film. Il y a ce petit, j'appelle ça supplément d'âme, parce que je sais pas comment le mettre en mots en réalité, mais c'est ça qui m'a beaucoup intéressée aussi dans cette jeunesse iranienne, c'est que au-delà des constructions politiques collectives qui se font dans des universités, qui se font dans des prisons, la dimension de l'appétence, de l'envie de liberté individuelle a été un moteur dans cette révolte que je pense qu'il faut regarder quand même avec une curiosité quand même un peu généreuse, parce que nous, on a tellement tendance à tomber sur cette jeunesse qui nous entoure, narcissique, sophistiquée, agrippée sur son téléphone, incapable d'ouvrir un bouquin, obsédée par le fait de faire des stories où il danse devant une glace, et que nous, évidemment, ici, on trouve ça pathétique. Alors que je rappelle qu'en Iran, en fait, ça a construit Femme, Vie, Liberté. Je l'ai déjà raconté, mais moi, ce qui m'a donné envie de faire ce film, c'était de voir, de taper Gina Mahsa Amini et de voir qu'une des premières vidéos de cette fille, c'est cette fille qui danse chez elle et qui danse hyper bien et que forcément, alors qu'elle n'a pas le droit de danser, je veux dire, Gina Marsamini, elle ne va pas en boîte ni au bal du 14 juillet. Donc, je veux dire, cette fille a appris à danser à l'intérieur de chez elle. Et donc, à l'intérieur de chez soi, on a continué de faire vivre cette tyrannité qui est décrite dans le film et qui fait que maintenant, la jeunesse, beaucoup plus d'ailleurs que nous, non seulement hérite de cette tyrannité qui a été évoquée par Farid Vahid, qui est une tyrannité culturelle, très prolifique artistiquement, avec les poètes qu'on ne recitera pas, une histoire de la danse, une histoire de la musique, etc., mais à laquelle vient en plus maintenant s'agréger ce mouvement globalisé, en fait, où que vous soyez aujourd'hui à Istanbul, à New Delhi, à Kuala Lumpur, en Californie ou à Paris, je veux dire, les jeunes qui ont le plus de followers sont des jeunes qui parlent à leurs écrans, qui parlent à leur ordinateur ou qui dansent devant la glace. Sauf qu'en Iran, vous dansez devant la glace et vous risquez des coups de fouet. Vous voyez ? Et en fait, ça, c'est quelque chose qui était très bien raconté par les parents des jeunes du film qui nous disaient, moi, Femme, Vie, Liberté, je me demandais pourquoi est-ce que cette fois-là, c'était différent. Et c'est vrai que nous, notamment la mère de Sarah, la narratrice principale du film, je me permets de vous reprendre, d'ailleurs, elle n'est pas bourgeoise, Sarah. C'est important.
Petite bourgeoise.
Ah oui, pardon, j'ai pas entendu. Petite, pardonnez-moi, excusez-moi. Non, c'est parce que c'est important, justement, de pas se dire ah oui, mais c'est l'élite qui est dans Femme
non,
de Liberté.
Non, c'est le contraire.
Excusez-moi, je vous ai mal comprise. Je vous ai mal compris. Et donc, tout ça pour dire que Sarah, là où elle est, sa mère, qui est coiffeuse, elle m'expliquait, qui est plutôt une femme de gauche, elle me disait mais nous, à notre génération, et même après, quand il y a eu des soulèvements, je sentais une force politique, un groupe collectif, mais une plus grande sobriété, évidemment chez les gens de gauche ou chez les religieux, qui a préexisté en Iran ces dernières décennies et aujourd'hui, qui est transformé quand même par des jeunes femmes qui se mettent en valeur, qui font de la rhinoplastie dans des chiffres qui défient tous les chiffres de chirurgie esthétique du Moyen-Orient, qui se mettent en valeur, qui mettent en valeur leurs mains, leurs pieds, leurs allures. Et donc ça, j'ai trouvé que c'était en plus une façon pour nous quand même de nous réconcilier avec la jeunesse mondiale.
Ah oui, carrément.
Voilà, en toute simplicité.
Et donc, on arrive au terme de cette émission, mais je n'ai pas la réponse à ma question. Pourquoi est-ce que la répression s'est accrue depuis les frappes sur Israël?
Oui. Très court. Moi, je dis souvent, en réalité, le régime iranien, il est employé à une double guerre. Une guerre contre la population civile d'abord, en remilitarisant les rues, en déployant de nouveau la police des mœurs, qui, vous savez, va brutalement appréhender les femmes, les jeter dans des vannes et les arrêter, etc. Et la double guerre, cette guerre de diversion d'une certaine manière avec Israël qui permet effectivement de venir masquer la répression à l'intérieur du pays. Parce que quand tous les regards se font sur ce qui se passe au plan international, on en oublie finalement les crimes qui sont commis à l'encontre de la population iranienne. It all starts somewhere. It all starts with one. Everything comes from something. It all starts with one. It all starts somewhere. It all starts with one. Nothing comes from nothing. It all starts with one. First everything is quiet. A breath of air from lips and tongue. Then the sound makes the world wide. One, two, three. We can do more, much more. Let's do more, much more. Let's say more. We are more.
Voilà, merci Solène Chalbon-Fioriti. Nous, Jeunesse d'Iran, voyage interné au sein de la génération Z iranienne. C'est ce soir à 21h sur France 5. Et on peut aussi encore toujours trouver La femme qui s'est éveillée chez Flammarion, une histoire afghane. Merci Shirin Ardakhani d'avoir été là. Merci Farid Vahid. C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Sébastien Royer et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. It all starts somewhere. It all starts with one. Everything comes from something. It all starts with one. Starts with one.